La guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Si sabías mon país, ani non ni frontiero, di l'Uber se spandis du nou foli pupeio, se trapo pescami, di l'usan de l'aspero, di l'uca o del rasi, di la mar dell'albiero. Se sabías mon país, se scumpe la sinestro, di la flor che spelis, di l'ucor de las bestio, di l'umbro che blanquis, di l'auto che respelio, di la dussur di unis,
Ophelion. 14-18 en pays cordé, nous nous retrouvons comme d'habitude. Et pourtant, ça va changer, parce que la semaine dernière, c'est toute une équipe qui était là, avec les amis de Mouziès-Panin, ça fusait dans tous les bords, très, très vivant. Aujourd'hui, ça va être un professeur qui va vous parler presque d'économie, oui, pas très amusant, peut-être. Et pourtant, c'est la vie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, le thème de l'émission que je vous propose, c'est la vie économique à Cordes pendant la guerre. Enfin, nous faire une certaine idée, un peu, de comment ça s'est passé, le travail, le commerce, etc., pendant la guerre. On y reviendra plus d'autres fois, bien sûr. Regardons d'abord les choses très concrètement. Donc, nous sommes sur une population d'environ 1500 personnes qui sont capables de travailler. J'enlève les enfants, j'enlève un certain nombre de personnes. La population active, on peut dire, ou potentiellement active, 1500 personnes, hommes et femmes. Et parmi eux, quand on regarde comment ils se présentent, je dis bien comment ils se présentent, dans les recensements. Donc ça ne veut pas dire qu'ils font que cela comme travail, mais ils ont rassemblé leur métier ou leur profession dans un seul mot. C'est à partir de là que nous pouvons faire une certaine description de la vie à Cordes. Alors, disons d'abord que parmi ces gens les plus connus, si on peut dire, ceux qui reviennent le plus souvent, ce sont les ruraux. Ils se présentent comme agriculteurs, parfois, quelquefois vignerons, quelquefois métayers, quelquefois propriétaires. Mais enfin, ce sont donc un certain nombre de personnes qui sont concentrées sur le travail agricole, d'une façon ou d'une autre. Et ils sont 140. Donc, c'est un gros bloc dans la population. Ça fait quand même 10%. Hein. Ensuite, il y a un deuxième bloc, si on peut parler ainsi, c'est tous ceux qui présentent un métier artisanal. Le mot artisanal, c'est une catégorie que nous avons fabriquée, bien sûr, mais eux disent je suis chiffonnier, je suis, comment dirais-je, cafetier, je suis drapier, mécanicien, etc., etc. Bref, donc des gens qui font quelque chose de leurs mains, qui fabriquent quelque chose, et ils sont 198. Des hommes ou des femmes, mais surtout des hommes. Une grande majorité d'hommes. Et ensuite, il y a évidemment les commerçants. Il y a beaucoup de commerces, beaucoup plus qu'on ne le croit, parce que les commerçants n'ont pas automatiquement un grand magasin. Il y en a pas mal qui, c'est dans leur maison qu'on venait, tiens, je viens t'acheter 3 œufs, je viens faire un échange, etc. Et ces commerçants sont au nombre de 89. Donc, c'est quand même sur un petit périmètre comme Cordes, 89 magasins, ça fait quand même beaucoup. Puis, il y a une catégorie qui est assez particulière et qui est le travail domestique, ou femmes de ménage, ou domestiques, et principalement des femmes. Et elles sont 58. Enfin, ils sont 58. En fait, il y a 49 femmes qui se présentent comme domestiques ou femmes de ménage. Et quelques hommes, et c'est tout. Et puis, il y a ce que nous appelons aujourd'hui les professions libérales, un médecin, un greffier, etc., un employé des postes, etc. Et ils sont assez nombreux, ils sont 46. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas le travail principal de corde d'un point de vue économique, ce qui occupe vraiment la population active, c'est la broderie. Et on a 284 personnes qui disent que leur métier ou leur activité habituelle, c'est d'être brodeur. Là-dessus, faut reconnaître que dans le cas des femmes, c'est très rare qu'elles soient brodeuses. Elles sont ce qu'on appelle techniquement parlant enfileuses. C'est-à-dire qu'elles aident le brodeur pour enfiler les aiguilles, etc. Mais ce qu'il faut rappeler de suite aussi, c'est que ces hommes ou ces femmes qui font ce travail de broderie ne font pas que cela, en fait. D'abord, tout au long de l'année, par exemple, on a des agriculteurs qui, quand le temps le permet, sont sur le champ, ou quand c'est la moisson, quand c'est les vendanges, les semailles, les labourages, etc., quand il fait beau, bon. Et puis, dès que le temps est mauvais, ou en hiver, ou qu'il n'y a pas un travail pressant de la terre qui attend, on se met à la broderie. Donc, la broderie, c'est un milieu assez fluctuant, mais qui prend quand même beaucoup de gens. Et pourquoi il est si intéressant? C'est que c'est le métier qui paye le mieux, le plus, en dehors des professions libérales, etc. Mais pour les paysans, pour des petits artisans ou des commerçants, des petits commerçants, la broderie, c'est ce qui assure un revenu intéressant.
De la pop et du rock dans le Tarn, la vie des pays, CFM.
Michel Bonnet, 14-18 en pays cordé, nous revenons donc à Cordes et aux activités économiques. Ce qui frappe, quand on regarde un peu plus dans le détail des activités d'un chacun, c'est la très grande diversité qu'il y a. C'est... Les métiers que, si on prend la liste des métiers qui sortent, il y en a énormément où il n'y a qu'une seule personne à Cordes qui fait cela. Je prends par exemple, il y a un électricien, il y a un forgeron, il y a un pêcheur de sable, bon, il n'y a pas besoin d'en avoir 36 bien sûr, mais par exemple une blanchisseuse, une foule de petits métiers, je dis petits, de métiers pas très répandus. Donc des gens qui font ce travail-là, quelquefois deux, mais guère plus. Il n'y a pas de grosse concentration. Là où on trouve plus de 10 personnes faisant le même métier, c'est très précis, il n'y en a que 6 catégories. Il y a les menuisiers, qui sont... Donc, bien sûr, ils ont beaucoup de travail, d'autant plus que les menuisiers, à l'époque, travaillaient... beaucoup plus à domicile, on les faisait venir et puis ils fabriquaient un joug pour les bœufs, une armoire, une chaise, un bahut, etc. Le deuxième métier important, c'est les cordonniers. Et là-dedans, on a beaucoup de... Enfin, une partie sur... Il y a une douzaine de cordonniers à Cordes, mais sur les cordonniers, il faut mettre aussi les sabotiers. Parmi les cordonniers, il faut mettre aussi les sabotiers. Donc, ce qui touche à ce moyen de locomotion indispensable qui sont les souliers. Et puis, il y a les épiciers. Ils sont aussi une bonne douzaine d'épiciers, épiciers ou épicières. Les boulangers, qui sont également assez nombreux, puisqu'ils sont 10 exactement. Il y a également des tailleurs. Tout ce qui travaille à la fabrication des habits. Et également, là c'est très précis, ce sont que des femmes, beaucoup de couturières. Une dizaine de couturières qui travaillent à domicile, bien sûr. Alors, quand on voit ça, la première question qu'on se pose, c'est que les mobiliser... Quand ils sont partis avec leur métier, bien sûr, qu'ils avaient en eux-mêmes. Ils ont laissé la place vide. Le forgeron qui s'en va, qui va faire son travail de forgeron à sa place. Bon, il y a comme ça des métiers, on peut à la rigueur s'en passer. Un horloger, bon, on peut vivre sans avoir un horloger sous la main en permanence. Un relieur, un serrurier, un chaudronnier, un cloutier, ça c'est des spécialités. À la rigueur, on peut trouver un moyen de s'en sortir, soit avec un retraité, soit avec quelqu'un d'autrefois qui connaît un peu le métier, etc. Mais par contre, il y a des métiers où c'est très difficile. Prenons les bouchers. Il y avait 8 bouchers à cordes, il y en a 5 qui sont mobilisés. Il n'en reste plus que 3. Ça change quand même au point de vue travail, etc. Les boulangers, je dirais presque que c'est encore pire, parce que le pain, c'est quotidien. Il y avait 10 boulangers à cordes, il y en a 8 qui sont mobilisés. Parce qu'il y en avait besoin à l'armée, évidemment, pour les soldats. Donc là, il n'était pas question de les laisser à l'arrière ou le moins possible. Et on ne s'improvise pas boulanger. Si boulanger, à la rigueur, un peu tout le monde s'est assez vite mis à faire le pain chez soi, à le cuire comme on peut, etc. Donc, voilà. Cette diversité qui a certainement posé un gros problème à la population à ce moment-là, même si ce n'était pas des problèmes énormes, un problème, je dis gros, au sens de permanent. On se heurtait constamment au fait que, un tel, il n'est pas là. Le serrurier, oui, il n'est pas là. L'électricien, il n'est pas là. Vous voyez, il fallait trouver un palliatif. Par contre, il faut s'arrêter un peu. On y reviendra peut-être dans une émission un peu plus particulière, à l'activité quand même principale de cordes, qui était le travail de la broderie. Donc, avant la guerre, le dernier recensement qu'on a avant la guerre, on a 284 brodeurs, hommes, 284 brodeurs, et là-dessus, il y en a 75 qui vont partir. C'est quand même un trou, 75 brodeurs en moins, et il y a 4 entreprises, ou 4, disons, centres, si on peut dire, où il y a certains, comme à la Godane avec Gors, ils sont facilement 20 à 25 brodeurs à travailler là. Il y en a d'autres, c'est 4 ou 5. Mais enfin, il y en a comme ça quelques-uns qui arrivent à boucher les trous parce que ils font venir à la journée d'autres brodeurs. Ils trouvent le moyen de s'en sortir. Mais pour les brodeurs qui sont individuels, qui ont acheté, ils se sont endettés pour ça, ils ont acheté un métier, et ils font un peu de broderie, ils essaient de les couler, soit directement, soit ils ont des accords avec des marchands à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, ailleurs, et ils travaillent. Mais pour eux, ça devient très difficile, parce qu'il y a moins de commandes, les communications pour expédier ça passent après les communications militaires, donc les transports posent aussi des problèmes, et il y en a beaucoup en plus qui sont trop fatigués, parce qu'ils ont trop de choses à faire en plus de la broderie pour la vie quotidienne, et c'est ainsi que beaucoup de métiers à broder s'arrêtent pendant la guerre, et on en trouvera. À la fin de la guerre, on ne trouvera plus que 146 brodeurs qui sont en activité.
We're stuck here, here with the many pains, with our letters, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat is smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always, I try always to disappear, it's not enough to die, no. And we're stuck here, here with the many pains, with the letters, a bigger picture says we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die.
guerre 14-18 en pays cordé, Michel Bonnet.
Michel Bonnet, 14-18 en pays cordé. Nous parlions des brodeurs avant, après la guerre, et donc ce problème de la broderie de cordes que tout le monde connaît, elle a disparu. Il y a eu un déclin qui a commencé avec la guerre de 14 et elle n'a pas pu s'en remettre. On reparlera une autre fois de ce problème spécial de la broderie à cordes. Lorsque on essaie de faire une comparaison entre la situation avant la guerre et la situation après la guerre, bien sûr, les statistiques, les documents n'ont pas été faits par les mêmes personnes, dans les mêmes conditions, avec des directives différentes, etc. C'est difficile de les comparer, de les mélanger, mais on peut quand même se faire une petite idée. Et mon impression, c'est que, mis à part la broderie dont je viens de parler, et où ça a été un peu la panique, mis à part la broderie, il n'y a pas eu d'énormes problèmes du point de vue économique pendant ces 4 années de guerre. On s'est, très rapidement, en quelque sorte, on s'est adapté à la situation, au fait que le matériau, on ne l'avait pas exactement de la même façon sous la main, qu'il y avait des réquisitions, qu'il manquait de travailleurs, etc. Si on regarde un des indicateurs qu'on peut avoir sur la santé économique de Cordes, c'est le nombre des habitants, puisque si on ne travaille pas, on ne se nourrit pas, si on ne se nourrit pas, on disparaît. Je m'excuse, mais c'est une règle absolument intangible. Or, si on prend la population active de Cordes, c'est-à-dire les gens, grosso modo, entre 20 et 60 ans, eh bien, ils ont exactement le même nombre au début de la guerre et à la fin de la guerre. C'est pas eux qui ont été touchés, en majorité, c'est pas la population active qui a été touchée, ce sont les plus jeunes, les enfants, les ados, à cause des maladies, etc., ou bien les vieux, les vieux et les vieilles, les vieillards, qui sont partis. Il y a eu comme cela, donc, 200 personnes qui n'ont pas pu traverser la guerre. Par contre, si on regarde la composition de cette population active. Si on regarde les métiers qui sont restés vivants malgré l'arrêt de la guerre, alors là, on voit des tendances assez intéressantes à percevoir. Par exemple, une première chose, les métiers qui disparaissent vite, les professions, les activités qui ont tendance à disparaître, ce sont surtout des activités féminines, et qu'on pourrait appeler grosso modo de service. Je parle des les femmes de ménage, les femmes qui étaient domestiques. Il y avait par exemple les métiers de repasseuse, le métier de couturière, de cuisinière, de nourrice. Toutes ces activités pendant la guerre ont été mises, ont pratiquement disparu. Les gens n'ont plus fait appel à cela, ils se sont arrangés autrement, enfin, ça c'est un autre problème. Mais donc il y a une tendance à la diminution des activités de service. C'est l'inverse des grandes villes, mais on est en milieu rural. Par contre, une tendance extrêmement forte et à laquelle, personnellement, je ne m'attendais pas, bon, les gens qui sont nés à Cordes et qui ont toujours vécu à Cordes, pour eux c'est tout à fait normal peut-être, mais c'est à travers la guerre, à cause de la guerre ou après la guerre, une montée de tout ce qu'on pourrait appeler comme employés ou fonctionnaires. Pas forcément fonctionnaires dans la fonction publique, mais donc des gens, qui, surtout des hommes d'ailleurs, pratiquement pas de femmes, mais on a de nos employés au poste, à la poste, aux impôts, on a un bureau de douane, enfin, un employé des douanes à Cordes, on se demande s'il surveillait l'Espagne ou quoi, je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est assez étonnant, c'est que après la guerre, on a installé un douanier à Cordes. Il y a les agents d'assurance, Et là, on comprend que les assurances se sont dit, et il faut arriver. Les banques aussi, ce qui prouve qu'il y avait des activités, etc. On a le métier de comptable qui est beaucoup plus présent dans la population. On a des greffiers. On a même on a des représentants de commerce, bien sûr. On a même une agence de voyage qui s'est créée à Cordes après la guerre de 14. Vous voyez. Donc, là-dessus, une montée d'un nouveau genre de travailleurs. On voit que la Cordes évolue, c'est évident, quoi. Dans ses activités économiques même, Cordes a évolué. Mais ce qu'il faut quand même remarquer, c'est que sur ces 21 postes nouveaux, 21 hommes, qui ont été créés à Cordes, 17 sont des hommes qui sont venus d'autres départements que de le Tarn. Ils sont venus donc de l'étranger, si on peut dire. Oui. Ce ne sont pas des gens d'ici qui ont changé d'activité ou qui ont eu une promotion. Non, c'est des injections, si on peut dire, qui viennent du milieu global, du national. Vous voyez, on sent que petit à petit, l'ensemble du pays va être quadrillé par des banques, par des assurances, par la poste, etc. Et ça fait un changement dans la population parce que tous ces hommes sont mariés, pratiquement. Donc ils viennent avec leurs épouses, ils viennent avec leurs enfants. Ça fait tout une partie de la population qui vient avec des habitudes nouvelles, un métier nouveau bien sûr, mais aussi des habitudes de pensée, de parler quelquefois, nouvelles, et qui sont pas forcément tout à fait dans le coup des traditions cordaises. Vous voyez que après la guerre de 14, il y a eu, on va pas en parler ici en ce moment, mais enfin, il y a eu des tensions il y a eu une variété de positions politiques, religieuses, et puis tout simplement économiques, avec des revenus différents selon les personnes. Donc une vie qui s'est mise à bouillonner d'une façon différente par rapport à l'avant-guerre, où là on se connaissait davantage, on avait des traditions, on était habitués l'un à l'autre, etc. Une petite évolution.
Thank you.
La vie des pays au son de la pop et du rock dans le Tarn. La vie des pays, CFM.
Michel Bonnet, 14-18 en pays cordé. Nous sommes à Cordes et nous essayons de nous faire une idée de la vie économique pendant la guerre de 14. C'est très superficiel, je m'en excuse, mais on peut pas faire autrement. Vous seriez obligé de rester 12 heures de rang devant le haut-parleur. Donc, nous voilà avec quelques clichés sur Cordes, si on peut dire. Alors, ce qu'on peut remarquer dans la population active de Cordes, c'est qu'on a quelques commerçants qui ne s'appellent pas commerçants, mais qui s'appellent négociants, et qui ont un travail beaucoup plus important. On voit par exemple, ils ont beaucoup plus à faire avec la gare de Vendrac que les autres, parce qu'ils doivent expédier des quantités plus importantes de matière. Je prends par exemple, on a le fourrage, l'exportation en dehors de Cordes, pas à l'étranger bien sûr, mais sur d'autres parties de la France, du fourrage, en plus du fourrage qu'on doit envoyer, qui est réquisitionné. Donc, demande de train, de wagons de train pour ça. On a des négociants qui travaillent sur l'exportation des vaches. C'est une tradition à Cordes où les familles essayaient d'avoir tous les ans ou tous les deux ans une vache qu'on préparait uniquement pour la vente et qui était expédiée à Toulouse, à Paris, etc. Donc là aussi, ce n'est pas un individu seul qui peut s'amuser à envoyer une vache toute seule à Paris, c'est évident. Il faut donc des négociants qui sont dans le coup, qui ont leur système, etc. Il y en a un point que je voudrais souligner, parce que on s'y attend peut-être pas aujourd'hui, c'est les œufs. Les œufs, c'était extrêmement important, d'abord tout le monde s'en sert, tout le monde en mange, et surtout, on les a facilement chez soi. On peut toujours avoir une ou deux ou trois poules qui vont donner des œufs. Et le commerce des œufs est une activité très importante. Il y avait quelqu'un, je peux dire le nom maintenant, il est connu, Monsieur Berry, qu'on avait surnommé le riche de Cordes, tellement il gagnait, si on peut dire, de l'argent avec les œufs. Et il avait un magasin à 8 à 8, il y en avait aussi un autre à la rue Saint-Grégoire, là où il y a une belle maison aujourd'hui qui est transformée en musée. Bon, donc il avait des stockages, il stockait des œufs, mais par milliers, par dizaines de milliers. On n'imagine pas cette chose-là. Et pour se détendre un peu, laissez-moi vous signaler quelque chose que j'ai trouvé dans la presse locale du coin, enfin la dépêche de l'époque, c'est que donc Monsieur Berry, avec sa carriole, enfin sa calèche, il avait un cocher d'ailleurs, c'était pas lui qui conduisait, il allait donc tous les vendredis à la foire de Carmont. Et il vendait des œufs. Il partait uniquement avec un chargement d'œufs. Et donc, il vendait ses œufs. Et un jour, en rentrant de Carmont, à hauteur de Monestier, tout d'un coup, un homme saute dans la carriole, dans le coche, se précipite sur M. Berry, met la main sur son portefeuille, dans sa blouse, lui prend le portefeuille et ressaute et disparaît. Donc, il se disait, le gars, il a vendu pas mal il doit avoir le portefeuille rempli. Mais Monsieur Berry était un roublard, hein. Il connaissait la musique, il avait très peu d'argent dans son portefeuille, et quand il est allé à la gendarmerie pour dire qu'il avait été porté plainte, qu'il avait été attaqué, etc., il dit, heureusement, j'avais pas mon argent là. Et on lui a dit, eh ben, alors, combien vous aviez quand même, vous avez sauvé combien là? Il dit, cette fois j'ai sauvé 600 francs. 600 francs. Bon, donc c'était important. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que à l'époque, une douzaine d'œufs se vendait 50 centimes. S'il a vendu pour 600 francs, ça fait 1200 douzaines d'œufs qu'il a vendu. Vous vous rendez compte le stock que ça représente? On dirait sur un marché en ville, c'est vite fait, quoi. Mais quand même, c'est pour dire que c'était pas avec un petit panier qu'on pouvait aller vendre ses œufs. Il faut savoir aussi que à l'époque à Cordes, surtout parmi les vieilles personnes, beaucoup de personnes utilisaient les œufs comme monnaie d'échange. On allait dans chez l'épicier et on lui donnait deux œufs et il nous donnait une dizaine de morceaux de sucre, vous voyez, ou bien trois cuillères de miel, ou bien quatre ou cinq sardines salées. Voilà. Donc les œufs étaient quelque chose de très important. D'ailleurs, quand on regarde les registres de la mairie et le maire et le conseil municipal se plaignaient auprès de la compagnie d'Orléans, la compagnie de train d'avant la SNCF, parce que les horaires étaient pas bien et qu'on manquait de trains, ils ont donné à un moment donné comme raison pour augmenter le nombre de trains qu'il fallait que les cordées envoient des œufs en pagaille pour nourrir la capitale, pour nourrir Paris. Ils voulaient davantage de trains entre Paris entre Paris et Cordes. Donc bref, c'était assez important qu'on parle des œufs à ce niveau-là. Donc voilà un peu cette chose-là. Parmi les grands manufacturiers, je dirais, les personnes un peu plus riches que les autres, il y avait donc la broderie qui avait, à côté des artisans individuels qui ont eu du mal à survivre à la guerre, il y a quand même eu donc ces quatre entreprises principales qui, petit à petit, pendant la guerre, ont pris l'habitude de centraliser les activités, les produits des uns et des autres, et puis de les vendre, de les échanger. En fin de compte, si on pouvait résumer cela, on pourrait dire qu'il faut d'abord se rappeler que Cordes était un petit village rural. C'était, on peut dire, les fortifications de Cordes, ceci, cela. À l'époque, au moins, on restait un petit village rural. C'est-à-dire que les agriculteurs, entre eux, avaient toujours des moyens de s'en sortir. Ils savent s'en sortir. Et bon, ils étaient très surveillés. On savait très bien que, de temps en temps, pas sous les fagots, mais dans un coin de l'étable ou d'ailleurs, ou du grenier, on pouvait camoufler un ou deux ou trois sacs de grains, par exemple, des choses de ce genre-là. Mais quand même, l'important, c'est qu'ils arrivaient quand même, eux, à se maintenir normalement en vie. Et évidemment, comme tout le monde est très lié les uns avec les autres, entre parents, entre connaissances, eh bien, on se fait des échanges, on s'aide pour tel légume, etc. Et puis, en milieu rural aussi, mais même à l'intérieur de Cordes, chacun avait son jardin. Et avec son jardin, il avait une petite basse-cour avec deux ou trois poules, un petit clapier avec quatre ou cinq lapins. Souvent, il y avait un cochon dans la maison. Et tout cela a permis de traverser les quatre années de restrictions de Cordes. Pour le reste, les habits, les outils, les choses, les meubles et tout ça, on fait durer. On essaie d'abîmer les choses le moins possible. Donc, je dirais que si on regarde la vie économique de Cordes pendant la guerre, on s'aperçoit que l'image n'est pas traumatisante. C'est pas comme dans d'autres endroits. C'est pas du tout. Je dis pas qu'à Albi ou à Toulouse, dans des villes plus importantes, c'était aussi tranquille. Mais ici, on a simplement l'impression d'un marché qui est au ralenti. D'une activité économique qui est ralentie. Bien sûr, le poids public n'avait plus d'activité, au point que on a enlevé la personne qui était chargée de peser les charrettes, etc., parce qu'il n'y avait plus assez d'activité. Bien sûr, à l'abattoir, on a enlevé en permanence un un gardien parce que il n'y avait plus assez d'activité pour lui payer un salaire. Et simplement, au coup par coup, il y avait un boucher qui venait tuer une bête, etc. Mais donc, on a marché au ralenti, on s'y est fait, et finalement, on s'est mis en stand-by, comme on dit dans le monde moderne, en attente, pour que, à la fin de la guerre, puisqu'on était sûr que la guerre s'arrêterait et qu'on serait victorieux, on pourrait reprendre une vie normale. Donc, voilà, je vous laisse avec cette image pas trop traumatisante. Je vous dis au revoir et à une prochaine fois.
Oh, what a day, all is wonderful here, but you're the one I miss and I keep on working. I can see that the trees are calling back the leaves, since it was a shattering day, but I keep on working.
Oh, 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 we don't say no, oh, 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 please don't go, oh, 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 you're gonna be crazy in my mind. Crazy, my mind.
Présentée par Michel Bonnet.
Venez découvrir comment la Grande Guerre a été vécue dans notre région. Nous le faisons en collaboration avec les archives du Tarn, les associations qui s'occupent du patrimoine et de l'histoire locale, la Talvera et bien d'autres.
14-18 en Pays Cordais sur CFM le lundi à 13h, rediffusion le dimanche à 11h.
Il fallait qu'il s'en aille, il n'est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu.